Nous sommes à la fin de notre série. Aujourd'hui, on va terminer. C'est plus que seulement savoir, c'est de le vivre. C'est plus de dire que Jésus est mon sauveur. Il est aussi mon Seigneur. Mais il y a quelque chose qu'on doit le montrer. Il doit être évident dans ma vie. Le verset qu'on a eu jusqu'à maintenant, qu'on a eu jusqu'à maintenant, c'est la vie en Christ. C'est plus que le connaître comme sauveur. C'est de vivre chaque jour en reconnaissance, en comptant sur sa grâce et son aide pour me transformer dans un témoin vivant de sa vie en moi. Le verset biblique qui vient avec, c'est « J'étais crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » J'étais en train de regarder un mini-film de 9 minutes. Il avait un prof de maths. Et cet enfant, vient la voir. Il lui montre son examen. Il était un petit enfant de quoi, de 6 ans ou 5 ans. Et il lui montre qu'il y a eu une mauvaise note dans son examen de maths. Et il vient tout énervé, l'enfant, il dit: regardez pour ça, vous m'avez mis une mauvaise note. Oui, parce que tu as mis que 2 plus 2, c'était égal à 22. Et la prof lui dit, il prend des couleurs, 2 plus 2, et le gamin dit, c'est combien? 2 plus 2, 22. Donc, il s'en va très énervé. Le lendemain, ça c'est un lundi, le lendemain, les parents viennent à parler avec la prof. Et regarde avec la prof comme, mais vous arrêtez, notre enfant a pensé différemment. Et la prof regardait ses parents comme, 2 plus 2 égale à 4. Et les parents, mais vous êtes malade, professeur, c'est 22. Ça, c'est mardi. Mercredi, c'est le principal, c'est le directeur qui vient. Oui, mais il faut être condescendant, il faut qu'il s'exprime lui-même. Mais la prof demande, mais c'est de maths. Je ne peux pas changer les maths, c'est comme ça. 2 plus 2 égale 4. Non, il faut laisser l'enfant. Non, je ne veux pas changer. Non. Il faut que vous demandiez pardon aux parents et à l'enfant. Mais la prof dit, mais non. Ce n'est pas que je demande pardon, c'est pas comme ça. Vendredi. Ah, et pendant tout cela, et il y a des nouvelles comme quoi un professeur ne peut pas, et on ne laisse pas les enfants s'exprimer, 2 plus 2 c'est 22, 2 plus 2 c'est 22. Vendredi, le principal l'appelle pour dire qu'elle est virée. Samedi matin, elle arrive chercher son chèque de part. Donc, elle se trouve qu'en rentrant à l'école, la presse était là pour la recevoir. Et le directeur de l'école est là. Donc le directeur vient, oui, mais vous auriez pu être un peu plus et cool avec l'enfant. Il dit d'accord, parce que vous étiez, pour ce mois-ci, c'est 2000 euros, plus 2000 euros de deux parts. Ça fait 4000 euros. Il a dandy un, ça fait 22 000. Et là, il était devenu fausse, et le directeur s'est fait en face à la caméra, et on voyait la tête comme il ne pouvait rien faire. Alors, si je dis Christ et moi, c'est égal à quoi? C'est pas grave. Christ et moi, c'est égal à quoi? À Christ. On vient de le dire, c'est plus que simplement moi. Christ en moi, c'est égal à Christ. On vient de le lire dans le verset de Galates 2:20. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce qu'on serait prêt à sortir avec une étiquette dans le front qui dit « Je suis un enfant de Dieu ». Vraiment une étiquette, hein? Autocollante. Combien de nous, on arrivait lundi matin avec une étiquette au boulot, sous le front? Je ne vais pas vous dire, je ne vais pas vous demander de lever les mains. Parce que la plupart d'entre nous, en arrivant au boulot, on le lève. Pourquoi on a honte? Parce qu'on croit qu'on, qu'on doit être des super personnes pour vraiment avoir cette étiquette-là. Et la Bible ne dit pas ça. Et je dois refléter Christ avec toute ma vie, pas simplement avec une étiquette. Et l'apôtre Jean va terminer avec ça. Christ en moi. Mais Christ en moi, ça va être égal à trois choses, on va les voir ensemble aujourd'hui. Christ en moi est égal à vivre pleinement. C'est pourquoi, je ne sais pas si vous le voyez, est égal à vivre pleinement. Donc, je vous invite à ouvrir votre Bible, s'il vous plaît, en 1 Jean, si vous avez votre Bible, sinon votre téléphone, n'importe. Et pour regarder la Bible en 1 Jean, chapitre 5, versets 1 à 3, pour l'instant. C'est marqué ceci. Quiconque croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu, et quiconque aime celui qu'il a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu, et nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas, quoi? Pénibles. Pénibles. Christ en moi, c'est égal à vivre pleinement. La première chose qu'il me dit, c'est quoi? C'est d'aimer les autres. Aimer les autres, tels qu'ils sont. Dans mes études de relations d'aide, il y a un exemple d'un monsieur qui vient voir cette personne, ses conseillers, et lui dit, non, je ne peux pas mettre en pratique ce que la Bible dit. C'est trop compliqué. Bah, la Bible dit que tu as aimé, il avait un problème avec sa femme. Et cet homme lui dit, cet conseiller lui dit, la Bible dit que tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Mais je n'arrive pas à aimer ma femme. Mais je ne peux pas le faire. Non, mais la Bible dit que tu dois même aimer ton ennemi. Et il considérait sa femme comme son ennemi. Alors, Dieu nous invite à quoi? À vivre de façon complète. Qu'en dehors de ce que je crois qui est le meilleur pour moi, qu'est-ce que Dieu dit qui est le meilleur pour moi, pour ma relation avec l'autre? Parce que parfois je conçois ma relation avec Christ comme moi tout seul avec Dieu et c'est fini. Donc cette relation-là ne doit pas se manifester avec les autres. Mais Dieu nous a créés comme des personnes relationnelles. Dieu a créé Adam et Ève pour se relationner, une relation avec eux. Comme vous et moi. Comme nous. Quand on s'assoit à manger, il connaît quelqu'un en face. Qu'est-ce qu'on fait? La première chose qu'on fait, comment ça a été dans ta journée? Bon, j'espère, moi. Parce que parfois, aujourd'hui, on voit des gens qui, avec leur téléphone, tu nous es arrivé, il y avait des gens à la maison pour discuter, et de ce moment, il y avait un blanc. 2-3 minutes, pourquoi? Parce que ces gens-là, des chrétiens qui aiment Dieu, ils étaient en quoi? Sur les réseaux sociaux. Et on perd cette vie de relation. Mais quand je veux vivre pleinement, la Bible me dit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Et quels les commandements? Aime ton prochain comme toi-même. Aime Dieu en premier et aime ton prochain comme toi-même. Est-ce que la parole de Dieu pour moi c'est pénible? C'est intéressant. Je réponds simplement les versets, les mots de la Bible. Est-ce que lire la parole de Dieu, ce qu'elle me dit est pénible pour moi? Pénible, ça veut dire... Oh, ça c'est bien foncé. N'est-ce pas? Et je l'ai adopté déjà. C'est bien. Pourquoi on ne lit pas la Bible tous les jours? Parce que j'ai la flemme, peut-être. Oui, ça peut être possible. Parce que je crois parfois que c'est pénible. Mais pourquoi je dois lire? Parce que je sais que quand je lis la parole de Dieu, Dieu veut me transformer. Et je ne veux pas te transformer, je veux vivre comme moi, je veux vivre. Et quand je décide de vivre par moi-même et ce que je veux, je ne vis pas pleinement, je vis à ma force avec mes aides personnelles. Mais mes aides personnelles sont conditionnées à ma force spirituelle, à ma santé, à mon état émotionnel. Et cela se termine avec n'importe quelle situation de la journée. Je peux arriver à ma maison très fatigué et j'ai mes enfants qui viennent. Oh, salut papa, comment tu vas? Je suis fatigué, je veux m'asseoir simplement et rien penser à l'autre, à rien penser à tout. Est-ce que j'ai le droit de me sentir fatigué? Bien sûr. Mais si je veux vivre pleinement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je dois sentir, laisser Dieu travailler en moi. Jésus, aide-moi à chercher de force pour avoir une relation aussi avec ma famille. Mais si je n'ai pas une relation avec Dieu comme ça, personnelle, je ne peux pas vivre pleinement. La Bible dit en Jean 14, « Je vous ne laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans mon Père et que vous êtes en moi et je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Et Jude, non pas l'Iscariot, lui dit, « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » Et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas, ne garde point mes paroles et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Il y a quelque chose très fort à savoir ici. La parole de Dieu nous est donnée pour nous aider à vivre. Si vous lisez le psaume 119, c'est le chapitre le plus long de la Bible, il y a plus de 100 versets. Vous allez trouver que dans chaque verset, presque dans chaque verset, il y a un synonyme de commandement. Précepte, instruction, et tout ça c'est pour qui? Pour nous, pour vous et pour moi. On chante. Tu es ma lumière, tu illumines mon sentier. Mais c'est qui l'a mis? Pardon? Ta parole est une lampe à mes pieds. Voilà. Ta parole, ce n'est pas ce que je crois de lui, ce que ta parole me dit. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Pas comme ma femme a dit une fois, une lumière sur mon chantier. De vie. Chantier. C'est pas pareil, mais presque. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Si on dit ta parole, ça veut dire qu'il y a quelque chose que je dois garder pour moi. J'embrasse ta parole pour ne pas pécher contre toi. Je garde ta parole pour ne pas pécher contre toi. Donc tout ça, ce sont des préceptes, des choses que Dieu nous dit à travers sa parole pour vivre pleinement. Christ doit être en moi et c'est égal à vivre comme Dieu veut que je vive. Alors il y a quelque chose que je dois faire. Oui. Quoi? Pas me lever tous les matins à 7h ou à 5h. C'est dire, Seigneur, me voici. Les pharisiens, dans le temps de Jésus, ils mettaient beaucoup de contraintes aux gens qui voulaient vivre pour Christ, ou voulaient vivre pour Dieu. Il faut accomplir plus de 600 lois pour vraiment vivre comme Dieu voulait. C'était impossible. Dieu l'a résumé en deux. Jésus l'a résumé en deux. Aime Dieu avec tout ton cœur, avec toute ton âme et tout ton être. Aime ton prochain comme toi-même. Si on est de Dieu, la Bible dit qu'on aime Dieu parce qu'on a donné notre vie. Donc, la chose suivante, c'est quoi? Pour vivre vraiment, je l'obéis. Et si je l'obéis, je garde ses commandements. Ils vont me guider dans les ténèbres de ce monde. Christ en moi, c'est la première chose, c'est de vivre pleinement. La deuxième, c'est que en Christ en moi, j'ai la vie et la vie éternelle. Deux choses différentes. On continue à parler de la même chose. Chapitre 5, versets 4 à 13 de 1 Jean dit la chose suivante. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Et non avec de l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. C'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui ont témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont en accord. Je vais m'arrêter là pour expliquer, parce que sinon, on va se prendre de ce que Jean va nous dire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a trois qui sont en accord. Alors, il y a plusieurs possibilités. Je vais simplement vous donner, pour une question de temps, celle que ça me paraît la plus, et qui correspond plus à la Bible. D'accord? Quand on parle de eau et de sang, de l'eau, on sait que c'est. L'eau, c'est quand Jésus a été baptisé, quand il a dit, j'adhère à ce message-là. Et le sang, ça veut dire quand il a été crucifié, son sacrifice. Donc l'Esprit, son ministère et son sacrifice sont des témoignages pour nous forts de ce que Jésus est, ce que Jean met en avant à cause de nos si qui étaient dans ce moment-là. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qui nous a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu, au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. C'est la même chose qu'il disait au chapitre 4. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné, quoi? La vie éternelle. Et ce vie est dans le Fils et dans son Fils, verset 12. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas la vie, sinon qui n'a pas le Fils, pardon, le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils Jésus-Christ. Nous avons en Christ en moi, et c'est égal à la vie et la vie éternelle. La Bible dit en Jean 10:10, le voleur ne vient c'est pour dérober, égorger, détruire. Mais moi, Jésus dit, je suis venu pour donner la vie et la vie en abondance. Alors, on a le témoignage de Christ, on a le témoignage. Trois personnes qui donnent le témoignage, ou trois situations qui donnent le témoignage. Pour un juif, avoir de deux ou trois témoins, c'était excellent pour un procès public devant un juge. C'était nécessaire. Parce que si moi je viens d'une seule personne, mon avis pour eux, ce n'était pas suffisant. Il fallait au moins deux, voire trois. Donc, Jean va donner trois témoins pour dire ça, c'est la vérité. L'Esprit de Dieu, le ministère de Christ et son sacrifice. Et là, tout ça nous dit quoi? Que nous avons la vie en Christ. La Bible dit quoi en Jean 3:16? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, en Christ, nous avons la vie. En premier choc, c'est quoi? La vie. On est mort par nos péchés. Éphésiens chapitre 2. Et quand on était mort par nos péchés, et spirituellement parlant, on entendait parler de Christ, de quelqu'un là-haut, il n'y avait pas vraiment une connexion avec Christ. Jésus est venu pour reconnecter l'homme avec Dieu le Père. Mais ce n'est pas simplement la connexion. La vie, c'est qu'il nous a ressuscité au Christ. Quand Christ est ressuscité, il a dit, voilà ce que va se passer avec vous tous. Pas pour ceux qui sont morts avant la venue de Christ. Il va être ressuscité avec lui, c'est 1 Corinthiens chapitre 15, et on va vivre avec lui pour l'éternité. Dans notre tête, le mot éternel ne marche pas, c'est incompréhensible. On a déjà ce symbole d'infini, quand on parle en mathématiques, déjà infini. On voit des nombres qui s'affichent et qui défilent, et que ça ne s'arrête jamais. Pour imaginer, on vit sans fin. Et cela qu'on a en Christ, c'est pas moi qui le dis. Écoutez, c'est les trois derniers versets, et voici ce témoignage que Dieu nous a donné. C'est en passé. Il nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. C'est tranchant. D'accord? C'est pas parce que je lis la Bible, je prie trois fois, ou je fais des bonnes choses que je vais aller au ciel. Parce que sinon, ça va contre ce que la Bible dit. C'est pas par les œuvres. Et si c'était par les œuvres, Christ est mort pour rien. J'utilise une logique simple, mes amis. Donc, Dieu nous a donné sa vie. Et si Dieu m'a donné sa vie, si j'ai accepté Christ comme sauveur, il m'a donné sa vie. Ça veut dire que je ne peux pas revenir en arrière. Écoutez bien ce que je veux dire. Ça s'appelle l'assurance de salut. Je ne peux pas revenir en arrière. La Bible dit en Colossiens chapitre 1 que Dieu nous a déplacé du royaume des ténèbres au royaume de son Fils bien-aimé. Je ne peux pas moi-même ressortir et sauter du royaume du Fils bien-aimé pour revenir aux ténèbres. Pourquoi? Parce que sinon, c'est moi qui détiens le salut. Et ce n'est pas moi qui le détiens. Parce que ce n'est pas moi qui est mort de la croix. Ce n'est pas moi qui est ressuscité. C'est Christ qui est ressuscité. Ce que je vous dis s'appelle assurance de salut. Ça veut dire quoi? Une fois sauvé, toujours sauvé. Ce n'est pas une carte blanche pour faire tout ce que je veux. Quand j'ai un cadeau, je le reçois. Et c'est pas simplement de le recevoir, c'est de le quoi? De l'ouvrir. Et de profiter de ce qui est à l'intérieur. Mais je suis responsable de ce qui est à l'intérieur, ces cadeaux. On va la faire plus simple. Je reçois un nouveau téléphone. On est heureux, évidemment. On a un nouveau truc à la main. C'est à la mode, c'est le dernier modèle, n'importe. Une fois que j'ai l'air à la main, je commence à l'utiliser. Et qu'est-ce qu'on fait? Normalement, on met une protection. 10 000 protections pour ceux qui sont qui ça. Par exemple, pour ma femme, elle doit avoir une protection double parce que malheureusement, ça tombe. Elle va écouter de toute façon ce message, elle va rigoler. Mais pour une raison quelconque, son téléphone tombe plusieurs fois par semaine. Donc on a fait le choix d'acheter un truc double. Pas simplement un truc comme ça, mais un truc double qui couvre le tout. On est quoi? On est responsable de cela, de la vie chrétienne. Dieu nous a donné sa vie. Dieu nous a donné son esprit. Alors, je suis responsable de cette nouvelle vie qu'il m'a donnée. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Alors, est-ce que parfois je peux avoir des doutes par rapport à mon salut? Oui. Quand je suis dans le péché, quand je ne confesse pas mes péchés, quand j'ai un problème avec quelqu'un, ça commence à me poser commence à perdre un peu la connexion avec Dieu. Mais jamais mon salut. Je garde la même image de téléphone. Quand je m'éloigne de la tour, je perds quoi? Le réseau. Je perds la connexion. Quand je m'éloigne, quand je cesse d'écouter Dieu, je m'éloigne et je perds. Je perds de plus en plus la connexion. Je ne perds pas mon salut. Parce que le salut, c'était gratuit pour moi. C'était moi. C'est pas moi qui l'a payé. C'est Dieu qui l'a payé pour moi. Je ne le perds pas. Mais je perds la communion. La Bible dit en Proverbe 28, 13, celui qui cache ses péchés ne prospère point. Mais celui qui les délaisse, qui les avoue, il les délaisse, retrouve la miséricorde. Hébreux chapitre 4, verset 16, dit qu'on n'a pas un souverain sacrificateur qui ne comprend pas. Il a même souffert. Il était homme. Il est encore vivant. Il est encore vivant il a souffert ce que moi j'ai souffert. Il a souffert. Et il était maltraité, il était tenté, vous voyez dans la Bible, il était tenté avec les mêmes choses que nous sommes tentés. Et là, il nous comprend. C'est pourquoi il vient à notre côté, il dit, écoute, viens à mon côté. C'est pourquoi le roi David, chaque fois que vous lisez les psaumes, presque chaque fois, David il est là pour nous dire, aide-moi Seigneur, parce que je veux qu'il tombe des pierres de feu sur ces personnes-là. Tellement énervé que parfois il écrit, il le dit je me sens comme ça. Oui, toi, tu es mon refuge. Mais il exprime sa colère. Dieu nous donne la vie pour vivre ce qu'il veut pour nous. Mais plus encore, la vie éternelle. Vous savez quoi? On a un espoir, on vient d'entendre aujourd'hui de la chaîne. On a un espoir que ce n'est pas fini aujourd'hui. Même si on a des maladies, même si on a des choses qu'on peut pas, nous, on ne peut pas contrôler, on a un espoir. Un jour, tout cela va être fini. Même si on a une tristesse profonde, tout cela va être fini. Et merci Seigneur pour cela. Nous pouvons être consolés par lui. Christ en moi, c'est égal à vivre pleinement, c'est égal à la vie éternelle. Et c'est égal à aussi ne pas oublier. Ne pas oublier quoi? Verset 14 au 21 dit la chose suivante. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. C'est super. C'est super cela. Verset 15. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous l'avons demandée. Je ne vais pas aller trop loin, mais Lucie est en train de préparer quelque chose par rapport à la foi. Je ne vais pas tout dévoiler parce que c'est waouh. Donc priez pour lui. Il se prépare à la prédication. Il va parler de la foi. Mais si cette foi qui nous est donnée par Christ nous donne ces possibilités de croire comme si c'était déjà fait. C'est comme c'est marqué dans la parole de Dieu, c'est pas moi qui le dis. Donc si je crois que Dieu m'écoute, je sais que ma prière a été entendue. Et je peux espérer que ma prière va être répondue. Répondue. Verset 16. Si quelqu'un voit, ça devient un peu plus compliqué, mais on va prendre le temps de le dire. Si quelqu'un voit son frère ou sœur en Christ commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort, à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort, et ce n'est pas pour ce péché que là je dis de prier. Toute iniquité est un péché, il a été un péché qui ne mène pas à la mort. Alors, qu'est-ce que Jean veut dire là? Pourquoi il parle d'un péché qui mène à la mort? On va l'expliquer aussi avec la parole de Dieu lui-même. Pour ceux qui ont lu la Bible, l'église en Corinthe est une église pas du tout bonne, en moins de la première lettre qu'il envoie. C'est une église avec beaucoup de gens qui se vantaient de beaucoup de choses, une église qui voulait montrer qu'il avait des dons spirituels spectaculaires et pour lui dire attention. On va mettre un ordre sur cette chose. Et dans un moment, il parle de l'immoralité. 1 Corinthiens 5 dit ceci. On entend bien également, généralement, pardon, qu'il y a parmi vous de la débauche, et une débauche telle que nous ne rencontrons même pas dans les païens. Donc, dans l'église, c'est quelque chose de pire. C'est au point que l'un de vous, et c'est au point que l'un de vous a la femme de son père, comme on appelle un inceste. Et vous, vous êtes enflé d'orgueil. Et vous, vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent à celui qui a commis tel acte. Au nom de Dieu, au nom du Seigneur Jésus, et mon esprit est rassemblé avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan. On va expliquer tout ça. Soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Alors, pourquoi Paul dit tout cela? Parce qu'il y avait un grand problème. Ils étaient en train d'accepter certaines choses qui étaient vraiment condamnables par Dieu lui-même. Et avant cela, pour ceux qui ont lu l'Ancien Testament, chaque fois qu'une personne, un Israélite péchait, quelle était la peine pour cette personne? C'était la peine capitale.
La mort.
à l'exemple. Josué, quand il rentre de la terre promise, à Canaan, c'est ça, Canaan, de la ville de Haï, ou Haï, la chose dite par l'Éternel, c'était, vous détruisez tout et ne prenez rien. Tout et ne prenez rien. Même s'il y a de l'or, même s'il y a des choses précieuses, même les vaches, il faut tout détruire. On parlait à un autre moment de la justice divine et pourquoi Dieu dit ça. Il y avait une personne, à Caen. Qu'est-ce qu'il fait? Ils prennent quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont perdu la bataille. Et Josué, il savait pas ce qui s'est passé. Mais Seigneur, on était en tonneau. Il vient de perdre. C'est quoi cette histoire? Et il y a quelqu'un qui a commis un péché. Je ne sais pas comment ils se fait pour arriver à lui. On a appelé les FBI et tout le monde. Donc, ils sont arrivés chez Akan. Qu'est-ce qui s'est passé avec Akan et toute sa famille? Ils sont morts. Alors, Dieu a traité le péché comme ça en ce moment-là. Aujourd'hui, on est sous la grâce. Dieu dit à travers Paul que cet homme-là soit jeté dehors, l'Église. Ça veut dire quoi? Qu'il reconsidère ce qu'il fait. Ça veut dire jeté à Satan. Pourquoi? Parce que Satan, c'est le prince de ce monde. C'est pourquoi il dit ça. Donc, jeté à l'extérieur, ça veut dire qu'il reconsidère ce qu'il fait. Et la deuxième lettre aux Corinthiens, il parle de le restaurer à la communion. Mais il y a parfois des gens qui restent entêtés dans leur péché et qui, écoutez bien, le jugement, je vais le lire parce que c'est écrit noir sur blanc, le jugement de la part de Dieu est un peu sévère, un peu plus sévère que simplement le mettre en dehors de l'Église. Parce qu'ils sont un mauvais exemple. Pas simplement pour ceux qui sont là, sinon pour le monde aussi. On lit souvent en Corinthiens 11 dans le moment de la Sainte Cène. C'est Paul qui répète les paroles de Jésus. Mais on s'arrête dans un verset spécifique. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Écoutez bien. C'est pourquoi, verset 27. En Corinthiens 11, 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Verset 30. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et des malades et qu'un grand nombre sont morts. Il parle d'une église. Le repas du Seigneur, comme c'est marqué là, dans ce moment-là, ce n'était pas comme on en fait aujourd'hui. C'était un repas. Un repas en commun. Et pendant le repas, il faisait la Sainte Cène. C'est comme Jésus l'a fait. Aujourd'hui, on l'a fait un peu différemment, simplement une tradition différente, mais ça ne change pas à l'affaire. Mais là, c'est marqué quoi? Il y avait des gens qui mangeaient avant. Non, je ne veux pas manger avec ceux qui sont de la caste plus basse. C'est ça l'affaire. C'était ça la grande problématique. C'est que les riches mangeaient avec les riches et les pauvres avec les pauvres. Et Dieu dit, c'est pas comme ça. C'est pas que vous dites tout de suite, je crois en Dieu, on mange ensemble. Non, mais il fait l'inverse. Christ en moi, ça veut dire qu'il me rappelle quoi? À ne pas oublier que je dois aimer mon prochain encore comme moi-même. N'importe si Dieu m'a donné plus de richesse à moi, mon frère était aimé de la même façon qu'il m'aime moi. Mais que Jean 6, je sais et je continue à être dans le péché, Dieu a décidé, parce qu'il est souverain, de dire, toi, mon fils ou ma fille, c'est préférable que tu viennes maintenant. Pourquoi? Parce que tu tâches Oh non. Dernier exemple. Deux exemples. Parfois, est-ce que vous vous souvenez de Ananias et Saphira? Dans le livre des Actes. Pierre est en train de. L'église, c'était la première église dans un sens. L'église commençait et tout le monde mettait toutes les choses en commun. Et Ananias et Saphira, hommes et femmes, étaient mariés, c'était le concours, ils ont décidé de vendre leur, ce qu'ils avaient, mais ils avaient, d'une façon cachée, de dire non, on va dire qu'on attend, mais on va donner différemment. Et qu'est-ce qui se passe avec les deux? Ils meurent à l'instant. On ne peut pas mentir à Dieu. Et dire, ah, donc oui, ah, on a menti, on n'a rien à se passer. Aujourd'hui, on a plus de grâce qu'avant. Mais aujourd'hui, je crois qu'il y a des gens dans l'hôpital, dans des cliniques, qui ont des problèmes spirituels et qui sont encore glorifiés. De telle façon qu'il y a une angoisse, une anxiété. Pourquoi? Il y a quelque chose qui ne s'est pas réglé devant le Seigneur. Il y a des tristesses profondes qui se confondent avec moi, j'ai pas donc, je vais le dire comme ça, j'aime pas le mauvais poisson, parce que je ne le trouve pas dans la Bible. Il y a une tristesse profonde dans leur cœur et qu'ils pensent qu'il n'y a pas de solution. Mais quand ton Dieu vient, on voit la tristesse peu à peu disparaître. Parce que Dieu, c'est Dieu qui nous amène la paix. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent se passer? Oui. Est-ce que Dieu peut décider, parce que c'est moi, c'est lui le Créateur, et c'est lui mon Père, est-ce qu'il peut décider, c'est bon, il faut que tu viennes à la maison? Oui, tu peux le faire. Et on doit prier pour ces gens-là. On doit les confronter avec amour. Tu sais, ce qu'on est en train de faire, c'est pas bien. Ce qu'on est en train de faire, est en train de tâcher ta communion avec Dieu, mais aussi en train d'influencer les autres pour aller loin de ce que Dieu veut. Pour toi et pour nous. Ça, c'est amour. C'est pas méchant, ça, c'est amour. Les versets qui restent disent ceci. Toute iniquité est un péché, il y a un péché qui ne met pas la mort, déjà lu. Nous avons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. Amen pour cela. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. On vient de le dire. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes de le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est, et c'est qu'il est Dieu véritable et la vie éternelle. Nous, c'est comme on l'a commencé dans le premier chapitre, nous le savons. Pourquoi vous venez le dimanche? À quoi vous venez? À simplement faire acte de présence? À simplement dire, me voici, j'ai rempli une fois par mois ma dette envers les autres? Être en présentiel, et c'est bon. Non? Dieu nous donne l'intelligence pour vivre de façon pleine. Dieu nous donne son intelligence à travers son esprit pour le connaître davantage. Et pour le connaître davantage, et c'est bizarre parce que ça termine différemment que des autres passages, petits enfants, gardez-vous des idoles. L'apôtre Paul parfois termine que la grâce de Dieu vous accompagne, etc., etc. Là, ici, Jean, petits enfants, gardez-vous des idoles. Pourquoi des idoles? Pourquoi terminer comme ça? Parce qu'il me rappelle qu'on est faible. Parce qu'il me rappelle qu'on a besoin de croire en quelque chose, d'être attaché à quelque chose. Mais si on dit que mettre le verset. Mais si on dit qu'on était crucifié avec Christ, et c'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. On doit vivre plus. C'est plus que simplement moi. C'est plus que simplement vivre, c'est vivre pleinement. c'est savoir qu'on a la vie et la vie est éternelle, que tous les jours, l'Esprit Saint nous remplit de sa vie. Et en plus, il nous rappelle qu'on doit avoir confiance dans la prière, qu'on doit intercéder pour les autres, qu'on n'est plus sous le joug de l'esclavage et que nous avons l'Esprit de Dieu pour connaître et comprendre et discerner les mensonges de ce monde. C'est pourquoi tout à l'heure on parlait de cette fête pour le 31. C'est l'Esprit de Dieu qui nous aide à discerner et pas à avaler tout ce qu'on entend. Je vous en prie de prendre mes paroles. Tous les messages, ils sont en ligne. Je vous en prie de prendre mes paroles. Il est passé par un filtre, le filtre de la parole de Dieu. Et s'il y a quelque chose que je dis, ça, il y a, par là, à travers la parole de Dieu, ça, il y a quelque chose que ça ne va pas, venez me voir, s'il vous plaît. Je suis un homme. Ce n'est pas parce que j'ai une Bible ici, je marche ici, je parle avec vous, que je suis parfait. Non, loin de là. Et bien, il y a quelque chose qu'il faut savoir. Inévitablement, nous avons une étiquette collée sur notre vie. Nous sommes enfants de Dieu. C'est là qu'on porte des responsabilités, mais surtout de savoir que Christ est en moi. Ce n'est pas pénible, car en lui, nous avons la vie et la vie en abondance. Je ne veux pas vous demander d'avoir une étiquette sur votre front, mais vous la portez. Où vous allez? Le soir, le matin, l'après-midi, Christ est en nous. En moi. Et ce qui fait en moi, il va où j'y vais. Il voit ce que je vois. Je parle homme et femme. Donc, qu'est-ce que je vois? Est-ce que ça plaît Christ ou pas? On peut tomber, mais il est là pour nous relever. C'est plus que ça.
Prions ensemble et après on chantera un chant pour terminer.